Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Parce qu'on l'a chantée. Elle est la vérité. Donc, j'ai intérêt à vous dire la vérité. Et le titre, c'est « Un sauveur viendra », mais il est venu. Nous allons lire faire trois lectures. Nous nous préparons pour Noël. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, donc le thème, ce sera un peu sur la nativité, c'est un peu presque de tradition. Enfin, il est toujours bon de se rappeler un peu ces textes-là. Premier texte que nous lisons, c'est dans Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu ?» C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Deuxième lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. Il est parlé ici de l'Annonciation à la Vierge Marie, mais au début on parle du sixième mois, mais c'est l'état d'avancement de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine, qui portera en son sein le prophète Jean-Baptiste. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Et voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il régnera éternellement sur le peuple ici de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra en toi sera appelé fils de Dieu. Voici ta parente Élisabeth, attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » Et elle est à son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Une troisième lecture dans Michée chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi, celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé. » Et aux jours anciens. Trois textes ici plantant le décor de l'histoire de Noël. Texte que nous lisons régulièrement en cette période de l'Avent. Y croyons-nous encore? C'est une question. Si dans les temps anciens on y croyait encore cette histoire, maintenant c'est différent. Nous, oui, nous y croyons. Quoique beaucoup de chrétiens doutent de cette histoire, nous croyons à la véracité de la parole de Dieu, comme nous l'avons chanté, c'est la vérité que nous proclamons. Donc nous croyons dans cette parole, nous croyons en ces textes sacrés que nous venons de lire. Même si certains textes dans la parole de Dieu nous posent des questions et me posent parfois des problèmes, je le dis franchement, il me faut de la foi pour croire certaines choses. Et vous aussi, certainement, ça nous paraît parfois inimaginable, certaines choses que nous lisons. Et ce récit, pour certains, ressemble plutôt à un conte pour enfants que nous leur lirions le soir avant de s'endormir, pour qu'ils soient bien sages et qu'ils fassent de beaux rêves. C'est beau, c'est mignon, on dira, mais pas réaliste. Nous sommes quand même au 21e siècle, au temps de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Que quelqu'un puisse conduire à distance une voiture depuis Berlin, et cette voiture se trouve en Belgique, ça j'y crois, parce que je l'ai vu. On fait des essais, le pilote était dans un centre à Berlin, et la voiture se trouve en Belgique, et il était en train de piloter la voiture, elle est remplie de capteurs, de caméras et tout ça, et la voiture circulait dans une zone bien sûr réservée. Ça on y croit, parce que nous sommes intelligents, c'est l'intelligence artificielle, ça c'est possible. Mais cette histoire de naissance par l'Esprit Saint, quand même fort de café, hein, cela prête à sourire. Et nos esprits cartésiens ont difficile à admettre cela. Peut-être même chez les chrétiens, certainement. Et pourtant, cette histoire que beaucoup trouvent rocambolesque a été prédite des siècles à l'avance. Mais même il y a 2000 ans de cela, l'on n'y prêtait guère attention. Très peu de Juifs attendaient le Messie de cette façon. Une vierge tomba enceinte d'une manière mystérieuse, donnant naissance au Messie. Mais non, c'est pas possible. Le Messie, oui, viendra sûrement sur des chars de feu, comme le prophète Élie fut enlevé. Je pense que beaucoup imaginaient la venue du Messie de cette façon. Et pourtant, le prophète Ésaïe déclare qu'un signe sera donné au peuple d'Israël. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Un enfant naîtra d'une jeune fille vierge, Emmanuel sera son nom, Dieu avec nous. Dieu se présentant sous une forme humaine, un petit bébé naîtra, un petit homme. Il était indispensable que le Sauveur vienne sous une forme humaine dans sa conception, né d'une femme, mais non pas d'un homme, parce que nous étions tous empreints de cette tâche originelle du péché. Donc il fallait que cet enfant, Dieu utilise une femme pour le faire naître, mais soit conçu par l'Esprit Saint, car cet enfant devait être sans tâche. C'est pourquoi l'homme ne pouvait le créer, ne pouvait lui donner vie. Il est indispensable que Jésus, le Messie, naisse de cette façon. Et voici pourquoi. Nous lisons un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, qui nous dit ceci. « Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon à partager leurs conditions. » Il est parlé de Jésus, né de chair et de sang. Il a partagé notre condition. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour sauver des anges, mais pour sauver la descendance d'Abraham qui vient en aide. Il vient en aide à des descendants d'Abraham, aux humains. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères. Ça, c'est important. Afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Jésus, par sa vie, devait partager notre condition humaine. Voilà le blocage des religieux de cette époque-là. Ils ne voulaient pas reconnaître un être normal dont ils connaissaient, un être normal, disons, dont ils connaissaient les parents. Car Jésus a été élevé par Marie, sa mère, et par Joseph, son père muricier. Il le disait, mais nous le connaissons bien, qui est-il celui-là? On connaît sa mère, on connaît son père, c'est le charpentier, il est de la même région que nous. Comment peut-il se prétendre fils de Dieu? Dieu a proféré quelque part la confusion en envoyant son fils de cette manière. Il devait vivre comme un simple homme. Le verset 18 nous montre, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Le Christ a vécu et a connu ce que nous connaissons. Toutes les affres de la vie, toutes les peurs, les bonheurs, les chagrins, tout ce que nous connaissons, il l'a connu. Il nous montre qu'il a souffert de sa condition humaine, comme nous tous nous souffrons, afin qu'il puisse nous comprendre que l'humanité qu'il devait sauver, il connaissait la condition humaine, il savait ce que c'est avoir faim, avoir soif, souffrir. Ce n'est pas comme nos hommes politiques qui nous donnent tant de leçons et qui vivent dans un cocon, dans de l'ouate, ils ne savent même pas quel est le prix d'un croissant, parce qu'ils ne vivent pas la condition humaine. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais c'est pour vous prouver que Jésus connaissait les réalités du terrain. C'était un homme de terrain. Ça, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce qui caractérise le Fils de Dieu. Il était donc indispensable que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, prenne une forme humaine. Il fallait qu'il souffre comme un simple homme. Pour Dieu, il était impensable que son Fils ne puisse comprendre la race humaine. Non, Jésus n'est pas un extraterrestre, mais Dieu sur terre. Comprenant les souffrances de notre humanité, rien ne le différenciait de ses contemporains, sauf qu'il n'avait jamais péché. Qui me convaincra de péché ? A-t-il prononcé. Si la naissance de Jésus laisse nos contemporains sceptiques et perplexes, imaginez la surprise et la stupeur de Marie quand l'ange lui annonce cette nouvelle. Elle était fiancée à Joseph. Elle était vierge, car c'était la règle suivant la loi de Moïse. Comment cela se fera ? Et puis, que va dire son fiancé ? Que va dire l'entourage ? Pour Marie, c'est un cruel dilemme d'accepter cette terrible mission. Cela la poursuivra à vie. Elle savait que le Messie devait venir, mais elle ignorait que c'était par elle qu'il entrerait dans le monde. Ça a quand même été une surprise, mais si Dieu l'a choisie, c'est que c'était une femme digne et pure de recevoir le Fils de Dieu dans son sein. Nous savons, nous qui connaissons et croyons en ce miracle, comment Dieu a planifié toutes choses, envers Marie et envers son futur époux Joseph. Mais sur le moment, il faut accepter et digérer ce qu'elle vient d'entendre et accepter pour le reste de sa vie cette grande mission. Bien sûr, elle se pose la question, comment va-t-elle donner la vie à cet enfant ? Sans intervention humaine. Et la réponse viendrait de la part de l'ange. Comme je le disais en débutant, cela semble irréel, cette naissance. De nos jours, l'on a toujours peine à la croire. Mais que dit l'ange à Marie ? Que nous dit-il encore à nous aujourd'hui ? Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quelles que soient nos demandes, quelles que soient nos prières, nous devons réaliser que rien ne lui est impossible. Et si ça devient impossible, c'est parce que, peut-être, bien souvent, c'est nous qui mettons des barrières ou des freins au possible de Dieu. Et je pense que si Marie aurait freiné de quatre fers, elle n'aurait pas pu donner naissance au Sauveur. C'est parce qu'elle l'a cru à l'impossible. Nous devons, tout comme Marie, frères et sœurs, prendre ses paroles et croire que Dieu est le Dieu de l'impossible dans toutes les situations de notre vie. Nous devons croire au Dieu de l'impossible. Un Sauveur nous est né. Pourquoi doit-il venir ? Eh bien, nous avons la réponse en Genèse 3, lors de la chute. L'humanité ayant basculé dans la désobéissance, et qui dit désobéissance dit péché. Et qui dit péché dit aussi séparation d'avec Dieu. Le lien avec Dieu était coupé. Rappelons-nous que Dieu se promenait dans le jardin avec Adam. Hein. Quelle joie d'avoir Dieu à côté de soi. Il nous dirait, t'as vu les salades aujourd'hui ? Ouais, elles sont magnifiques, hein. T'as bien travaillé. Ben, j'imagine que c'est un peu ça, la conversation, un peu tout genre comme ça, puisqu'il se promenait dans le jardin. Imaginez, vous avez votre jardin et que Dieu à côté de vous dirait, oh là, t'es pas bon cette année, pas fameux, hein. Mais c'était comme ça, cette époque-là, Dieu se promenait avec l'homme. Notre relation est cassée, car nous avons été séparés avec ce Dieu trois fois ça. Il fallait l'intervention de quelqu'un de pur afin de rétablir cette relation avec Dieu. Oui, Jésus n'est pas un extraterrestre. Dieu a envoyé son Fils en simple homme. Jésus était un bébé comme les autres. Ce n'était pas un extraterrestre. Il a peut-être fait passer des nuits blanches à ses parents quand il avait faim. Il ne devait pas se différencier d'un autre homme, sauf par la pureté et le péché. Je ne sais pas si on a déjà pensé à tout ça, mais Jésus a vécu comme nous, simplement. C'est pour cela qu'il sait nous comprendre. C'est pour cela qu'il peut comprendre chacun d'entre nous. Et les prophètes ont annoncé sa venue, comme nous l'avons vu, et ils sont précis dans les détails qui nous définissent ses attributs. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, dit-il, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Admirable, est-il dit. Ce sauveur est admirable, merveilleux, miraculeux, car il accomplira dans son ministère des actes parfois incompréhensibles, impossibles à accomplir, s'il n'avait pas sur lui la puissance de Dieu, car il est le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il est admirable. Conseiller tout au long de son ministère, Jésus, nous le voyons avec son empathie envers son entourage, toujours à l'écoute, prêt à consoler, prêt à relever. Dieu puissant, Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, et il l'a prouvé. Qu'il était réellement, par ses œuvres puissantes, il avait le pouvoir sur le vent et la mer, quand nous voyons qu'il calme les tempêtes. Il avait le pouvoir sur les esprits méchants, quand il délivrait les gens de leur possession diabolique. Il avait la puissance sur les maladies, les infirmités, combien n'en a-t-il pas guéri? Et la mort elle-même n'avait pas de retenue pour lui, car il en a ressuscité. Et lui-même est ressuscité. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu accomplir de telles actions, frères et sœurs. Père éternel, Jésus nous aime tel un Père aimant. Il veille sur nous qui sommes ses enfants. Et le Prince de la paix. Jésus est venu apporter la paix. Il est venu apporter la réconciliation entre lui et Dieu, entre nous. La paix dans le cœur, l'âme et l'esprit. C'est ce qu'il est venu apporter. Un sauveur est né. Le prophète Michée nous indique le lieu de sa naissance. Et le roi Hérode, entendant par les mages la naissance d'un roi, demande aux religieux de l'époque, où doit-il naître vraiment ce Christ? Matthieu chapitre 2, nous voyons la question du roi. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Dieu n'a rien fait en cachette, frères et sœurs. Alors pourquoi, face au texte de l'Écriture si clair, les religieux de l'époque ne croient pas en lui? Ils n'acceptent pas l'évidence et ils ne l'ont jamais accepté. Trop aveuglés, voulant demeurer dans leur tradition. Alors pourquoi le monde actuel, dans sa majorité, refuse le message du Christ? Alors que nous possédons l'entièreté de la révélation dans la parole de Dieu. Malheureusement, le monde reste sous la domination de Satan. Et lui ne veut pas que le monde se libère de son emprise, de son pouvoir. 1 Jean chapitre 5 nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. » Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un sauveur nous est donné. Mais beaucoup refusent le plan de Dieu de reconnaître son Fils comme sauveur et maître, tout comme lors de sa naissance. Encore maintenant, le monde a difficile de croire en cette période de Noël, de croire en Jésus, de croire réellement en cette naissance extraordinaire, miraculeuse. Quand nous posons la question, quand il y a des interviews, et vous allez en entendre encore, comme chaque année à la télé, c'est quoi Noël pour vous? La plupart des gens vont répondre, c'est une fête de famille, c'est les cadeaux, c'est le Père Noël, c'est les reines, la neige, les sapins. J'ai rarement entendu dire c'est la naissance du Christ. C'est dommage. Et pourtant, on y tient à cette fête. Là, quand nous voyons sur Facebook, nous voulons garder nos traditions, laisser nos crèches. Oui, c'est vrai. Gardons nos traditions, si on peut appeler ça tradition. Mais derrière cela, il y a la naissance du Sauveur. Et ça, nous l'oublions. Christ n'est pas une tradition, n'est pas une petite fête religieuse. C'est formidable de se réunir à Noël, j'ai rien contre ça. Et on est heureux de se retrouver, mais est-ce que nous avons encore en tête la signification de cette fête? Est-ce que nous réalisons que ce que ça a coûté au Père d'envoyer son Fils? Ce que ça a coûté à Marie, n'oublions pas, une épée te transpercera. Et l'épée, c'est quand elle a vu son Fils sur la croix. Et quand il a dit à sa mère, en lui montrant l'apôtre Jean, « Voilà ton fils, il fallait bien qu'on s'occupe d'elle, car elle était certainement veuve aussi. » Et cette épée l'a transpercée. Ça a coûté la vie de son fils à Dieu, parce qu'il nous aimait. Et 1 Jean chapitre 1er, verset 12, on dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Un sauveur est né. Nous avons cru. Nous sommes devenus ses enfants. Et cette habitation, cette période de l'Avent se partage avec le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, te remercions. Parce que ton Père n'a pas envoyé un extraterrestre, mais il a envoyé un petit enfant né d'une femme qui a grandi, qui s'est amusé avec les autres garçons de son village, qui a joué, qui a été instruit. Et puis, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le propagateur de la bonne nouvelle, le Fils de Dieu. Merci de ce que son ministère a été puissant. Merci parce qu'il a accepté la mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est parti. Merci parce que maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous le sommes, parce que nous avons cru en ce message. Ô Dieu, bénis ton peuple ce matin. Mais bénis tous ceux dans ce monde qui vont fêter Noël en oubliant ce que c'est vraiment Noël. Que Noël cette année pour beaucoup soit une nouvelle naissance pour eux. Nous te prions de bénir ton peuple, ton Église, afin que nous puissions demeurer fermes dans tes voies. Amen.